Comment on en parle est un podcast qui s'intéresse à la manière dont sont traitées différentes situations préoccupantes au sein de notre société, avec des invités qui possèdent des expériences significatives sur les différents sujets. Dans cet épisode, nous parlons de comment surmonter une tragédie avec
Monique Lépine.
Comment on en parle? Aujourd'hui, je vous reçois parce que vous êtes en tournée avec votre livre « Renaître »,
oui,
Madame Lépine. Vous êtes donc une auteure, une conférencière. Vous êtes également une infirmière de profession?
Oui, j'ai été 40 infirmières.
Vous êtes une maman?
J'ai été maman aussi, oui.
Vous avez toute cette identité-là, toute cette personne-là, mais votre identité, on peut dire, en quelque sorte, disparu en 1989.
Oui, il y a 30 ans déjà, oui.
Il y a 30 ans de ça, quand vous êtes devenue publiquement, on pourrait dire, mère d'un criminel, mais vous étiez devenue aussi victime collatérale d'une grande tragédie.
C'est ce qu'on m'a appris, oui.
J'aimerais aujourd'hui qu'on aborde un peu comment on arrive à surmonter une tragédie comme ça, comment on arrive à parler, en fait, suite à une tragédie comme ça, et aussi comment on en parle en société et le lien entre les deux. Comment ça peut faciliter ou pas le fait d'en parler soi?
C'est-à-dire que tu n'en parles pas immédiatement après la tragédie. Hein. Mm-hmm. J'ai été 17 ans, moi, à garder le silence. 17, oui. Parce que j'étais incapable d'entendre parler de Polytechnique. J'étais incapable d'entendre le prénom Marc. Et ainsi de suite. Et puis, comme j'étais encore à l'époque sur le marché du travail, bien évidemment, tu te protèges un peu parce que tu dois quand même assurer ta subsistance, donc de faire face à tes anciens collègues et ainsi de suite. Mm-hmm. Il y a comme des mécanismes de protection que tu mets autour de toi parce que tu veux pas te faire interpeller ou arrêter pendant que tu travailles. Puis même pour le travail, je veux dire, j'étais déjà en pré-retraite à ce moment-là. Donc, c'est certain que j'allais travailler mes 3 jours pour assurer ma subsistance, mais je vais vous assurer qu'en dehors de ça, j'étais complètement désorganisée. Mm-hmm. Et j'étais loin d'être prête à en parler pendant 17 ans.
Pendant 17 ans, ce silence-là. Et c'est après avoir brisé ce silence-là qu'on peut dire que la guérison a pu...
C'est-à-dire que le silence, il ne faut pas provoquer ou... précipiter les choses. Hein. Mm-hmm. C'est sûr que l'événement de Polytechnique, la tragédie de Polytechnique, c'était gros là au Québec. C'était la première fois que ça arrivait dans une université et moi j'étais loin de m'imaginer que mon fils ait pu faire un tel geste. Donc tu as tout un recul, tu te poses un paquet de questions. J'étais déjà mère monoparentale à ce moment-là. J'avais aussi une fille et vraiment, moi j'avais toute ma vie consacrée parce que j'étais séparée, le mari ne donnait pas de pension alimentaire. À l'époque, on n'avait aucune protection comme femme. Hein. Et là, j'ai dû travailler très fort pour arriver à mettre mes enfants, leur donner une bonne éducation. Et au moment où ils auraient dû commencer leur vie, mon fils a fait ce geste désespéré. Et là, je me suis posé d'énormes questions. C'est toujours la question qu'on se pose dans le deuil. Pourquoi ça m'arrive à moi? Comment ça se fait que mon fils a pu faire un tel geste? J'arrivais pas à saisir. Et c'est là où tu commences à prendre du recul pour essayer de comprendre. Mais vous savez, le pourquoi, on n'a pas toujours de réponse.
Non.
Et on voudrait avoir une justification à tout ce qui se passe dans la vie, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et on voudrait blâmer quelqu'un aussi, mais finalement, tout ce que tu peux faire, c'est te regarder dans le miroir puis dire, ben, il y a eu une faille en quelque part. Et moi, quand j'ai commencé ce cheminement-là, je me suis intéressée à ce qu'on appelle les blessures du cœur, les blessures de l'âme, des blessures émotionnelles, des choses qu'on ne parle pas beaucoup, mais qu'on traîne des fois depuis notre enfance. sens, ouais. des paroles qui ont été dites ou des gestes qui ont été posés à notre égard. Et finalement, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça s'imprime en toi parce qu'on pouvait pas parler de ces choses-là en société. On lavait notre linge sale en famille, on disait, ou c'était des secrets de famille qu'il fallait pas dévoiler ou ainsi de suite.
Tabou, ouais.
Beaucoup de sujets tabous, hein. Alors, c'était pas si évident. Puis mon fils était un être très secret. Alors, quand tu es secret, que tu ne parles pas de ce que tu ressens, à un moment donné, tu refoules tes émotions. Et quand tu refoules tes émotions, si tu ne les exprimes pas physiquement, c'est qu'à un moment donné, ça explose. Et je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions sur pourquoi un cerveau en arrive à produire des gestes de ce genre-là. Et c'est ça, j'ai pas de preuves de rien, mais j'ai quelques hypothèses.
Donc, c'est beaucoup, beaucoup de réflexions, de remise en question.
Énorme.
Énorme, mais en même temps, vous aviez pas beaucoup d'espace pour les vivre, dans le sens où vous êtes retourné immédiatement au travail, il fallait survivre, il fallait s'occuper, il y avait votre fille aussi à ce moment-là, que vous vouliez protéger, c'est sûr.
Ouais, exact.
Donc, comment guérir dans un cadre où il faut retourner immédiatement à la vie publique, là?
Oui, il y a quand même... Le fait que j'étais infirmière à la base, le fait que j'avais quand même aussi une maîtrise en éducation et quand même beaucoup d'études derrière moi, j'avais quand même les connaissances nécessaires pour être capable de passer à travers un deuil. J'avais déjà organisé beaucoup de groupes de deuil et ainsi de suite. Donc, j'avais la connaissance. Maintenant, la vie, c'est autre chose. Parce que là, tu connais les étapes, tu sais que tu es en période de choc, tu sais quand tu es en période de déni, mais arrive la période où tu dois transcender tes émotions ou vivre tes émotions ou vivre ta souffrance, c'est un petit peu plus difficile. Et puis si on le fait pas, on va rester dans le déni toute notre vie, puis on va finalement rien faire de notre vie. Alors moi, j'ai toujours voulu attaquer les choses de front, et c'est là où j'ai commencé à regarder les émotions qui auraient pu être difficiles pour mes enfants. Puis là, j'ai compris, je me disais, un enfant de 5 ans, 7 ans peut-être, 4 ans, ma fille avait, qu'est-ce que ça peut comprendre quand du jour au lendemain, ils vivent dans une grande maison, laissent la grande maison, le père est parti, la mère qui ne travaillait pas doit retourner sur le marché du travail, est obligée de faire garder ses enfants. Alors, tous ces bouleversements, c'est certain que ça l'entraîne des émotions. Et qu'est-ce qu'un enfant peut comprendre dans cette situation-là? Et c'est là où je me suis intéressée à l'abandon, au rejet, à la trahison, le fait de ne pas se sentir aimé, pas se sentir désiré. C'est toutes des choses qu'on vit. Mais si personne t'explique ou t'aide à passer à travers ce cheminement-là, c'est là où finalement tu vas commencer à avoir des perceptions qui sont faussé. Et puis, tu vas t'imaginer des choses qui ne sont pas vraies, finalement. Mais tu les crois. Et puis, quand tu les crois comme ça, c'est que tu vas te faire des scénarios et c'est très négatif. Pour la plupart du temps, c'est des émotions négatives.
Ah oui, puis la haine peut nourrir, grandir.
Et
de là.
Dont la haine, oui. Puis la haine vient d'où? La haine vient de l'amertume. C'est la racine du mal. Et l'amertume, c'est quoi? Si t'es frustré, t'es déçu par une parole, par un geste que quelqu'un a fait. Puis j'en ai découvert beaucoup par rapport à mon fils dans les dernières années seulement, où les gens là, commencent à délier leur langue. Et puis il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient été abusés sexuellement. Donc ça, ça laisse des traces profondes chez un enfant. Et ça peut gâcher ta vie entière. Et mon fils, malheureusement, le fait qu'il ne parlait pas, qu'il ne voulait pas d'aide non plus, mais encore là, socialement, c'est comme ça. Les garçons ne pouvaient pas pleurer, les garçons ne pouvaient pas exprimer leurs émotions. Alors imaginez-vous tout ce cheminement qu'ils doivent faire face. Et puis comme il était plutôt secret... qui s'intéressait vraiment à des choses que moi, je m'intéressais pas. Là, les mathématiques, l'électronique, l'ordinateur, c'était tous des domaines que mon fils excellait. Mais moi, c'était pas mon c'était pas
c'était
mon
pas
cheminement.
Des zones communes,
là, Alors, il était encore plus secret. Et ses amis ont toujours eu... Il y a toujours eu des amis fidèles, de garçons. J'ai jamais connu de filles, vraiment. Mais là, encore là, est-ce que c'était relié à un problème qu'il y avait que j'ai jamais connu ou que j'ai jamais su. Il y a l'autre chose aussi, des garçons de 25 ans, souvent des psychoses. On se demande pourquoi que ça vient, une psychose, là, un débalancement chimique. Et j'ai vu beaucoup de jeunes garçons, 25 ans en prison, qui avaient commis des meurtres sans se rappeler le lendemain ce qu'ils avaient fait la veille. Alors, c'est délicat le cerveau, hein? Et puis, on ne comprend pas tout ce qui se passe là-dedans. Il y a aussi toutes les influences. On parle, c'est terrible, puis j'avoue, c'est terrible cet événement-là, mais d'où ça origine? Toute la télévision, la violence qu'on nous passe à la télévision, pensez-vous que ça n'a pas d'effet sur les enfants? Même dans les choses pour les enfants, tu trouves énormément de violence. Les valeurs ne sont plus les mêmes. Hein? On n'a plus de valeurs sociales. On dirait que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et puis, les enfants sont influencés. Ils sont influencés aussi par leurs camarades. Et puis moi, j'ai vu qu'il y avait eu une influence par ce grand frère. Parce qu'à 12 ans, mon fils avait un grand frère. C'est supposé être quelqu'un qui va l'aider à franchir le cap de sa masculinité. Mais ce que j'ai su, c'est que ce grand frère-là a abusé mon fils. Il a été arrêté pour attouchement sexuel chez des jeunes garçons. Alors ça n'a pas aidé non plus. Et puis mon fils ne m'a jamais parlé de ça. Ah, donc il y avait une pudeur, encore aussi. Là, une autre pudeur. Et c'est vrai que c'était pas un langage qu'on pouvait exprimer librement dans les débuts des années 70, mais il demeure que ça a créé énormément de remous. J'ai même su que peut-être d'autres personnes l'auraient abusé. Mais ça, tu sais, encore là, j'ai pas de preuves, là. Mais c'est des choses que tu entends, puis je me dis, oh, comment ça se fait? Puis comment se fait qu'on n'a pas vu ça? Comment se fait que j'ai pas vu ça?
Oui, le sentiment de culpabilité doit être intense, mais en même temps, ce que je trouve beau, c'est que vous vous êtes pas arrêté à observer cette culpabilité-là, ces sentiments-là.
Non.
Vous avez vu qu'il y avait eu ce secret-là, qui n'avait pas été nommé par votre fils, puis vous avez décidé de faire l'inverse et d'ouvrir et de nommer ce problème social-là.
Oui, comme j'avais une maîtrise en éducation, pour moi, si tu as à parler, il faut apporter quelques éléments d'enseignement. Sinon, ça sert à rien. Hein? Un événement, OK, l'événement était négatif, mais essayons de trouver quoi faire pour éviter ce genre de drame à l'avenir. Et c'est un peu la vocation que je me suis donnée, mais surtout aider les mères qui ne peuvent pas parler. Parce qu'il y en a énormément dans ma situation qui sont incapables de se relever et incapables de nommer les choses. Moi, ça m'a pris 17 ans, puis c'est à cause d'un autre meurtre à Montréal que j'ai décidé de parler, parce que là, je trouvais que c'était trop, là. Et on dirait que ça devient presque des événements communs, ces meurtres-là, qui sont à répétition dans plusieurs pays, dans plusieurs endroits, et puis d'une fréquence qu'on n'a jamais vue auparavant. En tout cas, on n'avait jamais entendu ça auparavant. Mais il y a un mal d'être. Quand on entend parler de stress chez des jeunes, la performance qui est demandée à tous ces jeunes-là, on voit qu'il y a un mal d'être chez nos jeunes. Et puis, pourquoi un mal d'être comme ça? Pourquoi? Parce qu'on nomme pas les choses. Qu'on ne s'intéresse pas à la personne. On s'intéresse à ce qu'il va produire, mais pas à la personne elle-même. Alors ça, pour moi, c'est un renversement qu'il faut faire en tant que société. Faut s'intéresser aux gens. Puis, on a tous besoin, en tant qu'être humain, d'être aimé, d'être considéré, d'être apprécié, d'être sécurisé. Mais qui s'intéresse à l'autre? Il y a beaucoup d'égoïsme. Les gens veulent les choses pour eux. Mais combien vont s'intéresser à quelqu'un qui souffre?
C'est des questionnements que vous soulevez. Vous avez décidé de partager, justement, avec l'autre, de vous ouvrir à l'autre. Vous me parliez tout à l'heure d'un jeune homme que vous aviez vu en prison. Est-ce que vous êtes allé vers...
Moi, j'ai fait la justice réparatrice. Au tout début, c'est que j'ai été récupérée, si vous voulez, par le ministère de la Justice qui faisait des programmes de justice réparatrice. Et c'était auprès de prisonniers. Évidemment, moi, j'étais jumelée avec des meurtriers. Et j'ai fait ça autant chez les hommes que chez les femmes. Et je me suis intéressée à la justice réparatrice pendant un certain temps parce que je comprenais pas tout ce rôle de victimisation et les victimes, catégoriser les victimes et ainsi de suite. Et innocemment, moi, quand c'est arrivé, évidemment, j'avais demandé de l'aide d'IVAC, pensant que j'avais droit. Mais imaginez-vous que victime collatérale, mère de meurtrier, t'as pas le droit à aucun service.
Rien du tout?
À rien du tout. Même si tu payes tes taxes, même si toute ta vie, t'as travaillé pour justement payer tes taxes, payer être un bon citoyen. Non, non, t'as pas le droit à rien. Moi, j'avais au moins cet avantage de travailler dans un hôpital, un milieu de compassion, où quand j'avais des douleurs physiques intenses, parce que vous savez, toutes les douleurs qu'on a à l'intérieur de nous, ça va se transposer dans notre corps. Ah oui. Et des moments, j'avais de la misère à aller même travailler tellement j'avais des douleurs physiques. J'avais ce privilège d'être capable de demander aux ergos ou aux physios de me faire des traitements avant d'aller travailler. Elles acceptaient toujours. Il y avait la psychologue qui était là à qui j'aurais pu poser des questions ou aller permettre, aller parler. Elle aurait accepté, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Non, et aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Voyez-vous, parce que c'est long avant d'avoir un rendez-vous. Alors, que font ces femmes? Que font ces femmes? Parce que la majorité, ce sont des femmes qui souffrent. Et puis, des femmes dont le mari ne veut pas qu'elle parte. Des femmes qui sont sur le marché du travail, qui n'osent plus retourner sur le marché du travail.
Oui, la peur du regard des autres.
Oui, parce que la société est te regarde. Ça t'amène des sentiments de honte, de culpabilité, comme on disait tantôt, mais aussi de peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, même d'avancer, parce que à cause du regard des autres. Il faut être fait fort, vous savez, pour faire face à tout ça. Et heureusement, je l'étais, mais ça s'est pas fait en un jour. Et puis, aujourd'hui, ben quand j'ai fait le choix de vivre, parce qu'il a fallu, à un moment donné, que je fasse le choix de vivre, ça a été le but de ma mission, c'est d'aider des gens qui n'ont pas de service, et puis d'être à l'écoute et de les aider, de leur donner du temps pour peut-être les aider, les guider vers des ressources possibles, ou ainsi de suite. Ou moi-même faire un peu les étapes de deuil avec elle.
Oui, vous êtes ouverte à l'accompagnement.
Oui, je suis ouverte à pas mal de choses maintenant.
Oui. Oui, vous avez rebondi d'un événement violent pour retourner vers l'amour, vers les autres.
Oui.
C'est effectivement quelque chose de gros, je crois, d'oser se lever, s'exposer au regard des autres et de dire « je ne me laisserai pas déterminer par ce qu'on a dit, ce que j'ai entendu ». Et je sais qui je suis de s'affirmer devant ça. C'est un exemple pour tous là, en société.
Oui, mais c'est ça. C'est que, mais pour le faire, il faut que tu aies la connaissance.
Ouais.
Tu vois, puis c'est là où j'ai fait énormément de cours. Même pendant que j'étais silencieuse, je faisais des cours. Et pour m'aider à évacuer, j'ai fait de la musique aussi. Parce que j'avais acheté une flûte traversière, c'est assez étrange, juste un mois avant que Marc aille faire ce drame. Et j'avais acheté ça d'une infirmière qui voulait faire un voyage en Europe, elle avait besoin d'argent. Et après, en janvier, quand j'ai vu que j'ai retrouvé ma flûte, je me suis dit ce serait un bon moyen pour évacuer mes émotions. Parce que là, t'as pas besoin de parler. Alors, j'ai fait des cours. J'ai fait 5 ans de cours. Juste pour être capable d'exprimer mon émotion par la musique.
Oui, comment on peut trouver des moyens d'expression quand les mots sont trop difficiles?
On peut pas. Quand quelqu'un souffre de cette façon, les mots ne veulent rien dire. Ils ont simplement besoin de bras compatissants autour d'eux pour être capable de sentir la présence humaine à côté. Mais les mots, tu peux pas parler dans ces moments-là, c'est trop pénible. Et la personne, quand elle est prise dans son émotion, ne peut pas raisonner. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça, moi, des fois, je trouve exagéré quand on amène quelqu'un qui vient de subir un drame et qu'on le met à la télévision tout de suite pour exprimer comment... Puis, ils osent demander comment vous vous sentez. Mais c'est sûr qu'ils se sentent mal. Voyez-vous? Alors, moi, je trouve ça épouvantable.
Oui, ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on aborde, justement, comment on en a parlé en société. Puis, la façon dont on traite ces sujets-là, comment ça peut faciliter ou pas la prise de parole et la guérison de quelqu'un, la surmédiatisation, par exemple.
Oui. Mais de toute façon, moi, je me suis toujours posé la question, quand mon fils a fait ce geste. Il y avait des journaux et toutes sortes d'articles. J'ai dit, où ils ont pris matière à écrire un article? Mmh. Ils étaient retournés, on était en 89, ils étaient retournés dans mon jugement de divorce plus d'une décennie auparavant. Pourquoi? Et c'est uniquement là qu'ils ont trouvé matière à parler. Parce que je n'ai jamais parlé, personne autour de moi n'a parlé. Sauf ceux qui voulaient peut-être une visibilité. Parce que vous savez qu'il y en a qui vont se servir de ça pour se faire connaître.
Dans l'entourage ou?
J'ai vu un petit garçon qui était ami de mon fils qui a saisi cette tribune pour se faire connaître. Et tout ce qu'il disait, ben, ça valait ce qu'il disait. Parce que vous savez, tout ce que vous allez dire, ce sont vos perceptions.
Oui.
Est-ce que c'est la vérité? Non. Et si vous allez un petit peu plus creux pour connaître la motivation de ceux qui parlent, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui cherchent une tribune pour se faire valoir.
Donc, il y a ces gens-là qui cherchent une tribune, il y a les médias qui cherchent
Le sensationnalisme. Et puis, ça aide pas personne.
Ni les familles des victimes.
Je ne croirais pas. Parce qu'eux aussi ont à vivre leur deuil. Oui. Hein? Et puis, en tout cas, pour moi, c'est pas le moment quand tu es dans la peine. Parce que tu es en état de choc.
Ouais.
Quand tu es en état de choc, justement, dans ton être, se libèrent des hormones tranquillisantes qui font que tu es là.
T'as pas accès à ton propre...
Non, t'as une distance émotionnelle. Même la concentration, la mémoire, ça diminue. Alors, comment veux-tu aller répondre à des questions qui font appel à ton intelligence? C'est absolument aberrant. Aberrant, je vous le dis, c'est aberrant. Et ça aide pas la personne.
Non.
C'est pour ça que la personne a le besoin de quelqu'un de confiance autour d'elle parce qu'elle ne va pas vouloir se confier à des étrangers.
La confiance doit être très difficile à tisser, surtout quand une tragédie est médiatisée comme ça.
Ouais.
La confiance envers l'autre,
il faut toujours avoir des doutes. Aies déjà quelqu'un en qui tu as confiance.
Ouais.
Moi, très peu de gens pouvaient m'approcher à ce moment-là.
Ouais.
Très peu. Par contre, je recevais des lettres qui me venaient de partout, de gens que je ne connaissais pas. Ça venait soit de la maison funéraire, soit des policiers, soit des journalistes. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même au niveau social quelque chose d'assez incroyable de voir que des gens s'intéressaient à toi pour ta personne.
OK.
Ils s'intéressaient à toi pour te dire qu'ils étaient avec toi puis qu'ils réalisaient que c'était pas de ta faute.
Ouais.
Comprends-tu?
Donc, il y a eu une solidarité quand
même. Il y a eu une solidarité de gens qui ont cœur de compassion.
L'amour.
Mais c'est pas tout le monde qui a cette compassion, mais il y en a qui ont cette compassion. Et ça, je dois dire que ça aide. Parce que tu vas lire les messages uniquement quand tu te sens prête à les lire. Et je me suis fait un point d'honneur de répondre à tout le monde.
Oui.
Oui. Ne serait-ce que pour dire merci. Parce que finalement, ces gens-là t'aident à continuer à vivre. Puis ça, il y a aussi des thérapeutes. J'ai pas vu des thérapeutes dans les médias, mais après un certain temps, après la mort de ma fille, parce que j'ai perdu ma fille aussi, 7 ans après la mort de mon fils, les policiers sont venus chez moi pour m'annoncer que ma fille était gravement malade. Ma fille ne portait pas le même prénom et le même nom de famille que son frère, parce que son frère avait changé son nom à l'âge de 14 ans. Il est devenu Marc Lépine, mais c'était pas mon fils. Mon fils, c'était Gamil Garbi. Alors, cette personnalité qu'il s'est donnée, elle était étrangère au petit garçon que je connaissais. Dans le fond, je pense qu'il n'était pas heureux. Il n'arrivait pas à trouver sa place, probablement, dans la société. Probablement qu'il voulait avoir une relation d'amour et puis que il l'a pas eu non plus. Vous savez, les aides qui sont différentes des autres, de la norme, souvent se font taxer, n'est-ce pas? Et puis mon fils, malheureusement, il a eu un peu d'acné à l'âge de l'adolescence. Ça l'a marqué, ça aussi. Et puis, il était gêné. Donc, il y a eu un paquet d'affaires qui fait qu'il n'a pas été épanoui comme il aurait dû s'épanouir en tant qu'enfant. Et puis, probablement que son père, qui avait été violent à son égard, alors qu'il était tout petit, ça a laissé des marques, ça aussi.
Ouais.
Et le fait que son père nous mette dans dans la rue et sans pension alimentaire. Vous savez que c'est pas normal, hein? C'est pas des situations normales. Tu peux en vouloir à ton épouse ou à ton ex, mais on voit ça aujourd'hui encore avec les meurtres.
Les féminicides qu'on voit.
Oui, c'est incroyable.
Oui, des maris qui...
Ça veut dire que les hommes ont besoin énormément. Puis, un autre facteur, c'est la définition de l'amour. Ce qu'on définit dans la société comme l'amour, c'est pas de l'amour. C'est de la sexualité pure et simple. Alors, c'est pas en faisant l'amour que tu vas découvrir l'amour.
Vous me parlez d'amour, et puis je le vois dans vos yeux qu'il y a quelque chose de beau, d'important pour vous à ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est maintenant pour vous, l'amour?
Moi, ça commence par ma relation avec le Seigneur.
Oui.
C'est incroyable, hein? Mais à un moment donné, devant ce vide émotionnel que j'avais... J'ai entendu quelqu'un qui m'a parlé de Jésus. Et puis, dans le fond, hein, tout le monde croit en Dieu. Mais en Jésus, c'est autre chose. Et pourtant, moi, j'ai découvert que c'est lui, finalement, par lui que je vais pouvoir vivre dans l'éternité. Je lis la Bible constamment, chaque jour, et j'y trouve dans les évangiles matière à réflexion, mais aussi à mettre en pratique les principes que j'apprends et l'enseignement de Jésus aussi. Mm-hmm. Puis on sait très bien que l'enseignement de Jésus est basé sur l'amour de Dieu et l'amour de son prochain comme soi-même.
Ouais.
Donc finalement, quand tu fais que ça... Si dans toutes tes actions, tu essaies juste de mettre ces deux commandements en principe et puis de les appliquer, déjà, tu vas avoir des meilleures relations avec les autres. Hein?
Oui.
Alors, l'amertume, tu n'essaieras pas de te venger. Tu vas vouloir excuser, pardonner. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé, moi, à un moment donné, qu'on est tous des êtres imparfaits.
Ouais.
Personne peut se vanter de posséder tout. Alors, si moi j'ai reçu des dons, d'ailleurs tous nos dons nous ont été donnés par Dieu, si moi j'ai reçu ça, c'est pour le mettre au service des autres et pour se recevoir des autres aussi, la même chose, pour mon épanouissement aussi, pour ma maturité.
Oui.
Alors, pour moi, ça amène toute une autre approche. Pas
ouais.
Et puis, cet amour-là, je voudrais jamais m'en séparer parce que je savais que même dans la souffrance, parce que j'ai vécu de grandes souffrances, mais je savais que je n'étais pas seule. Mais c'est pas au niveau humain, c'est au niveau spirituel. Et puis mon livre Renaître, c'est ce que ça veut dire. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, tu ajoutes une dimension à ta douleur en renaissant pour être capable de vivre et d'apporter quelque chose de positif dans la société, finalement.
Donc, on pourrait dire un peu que, justement, vous avez écrit ce livre-là, vous avez fait ce témoignage-là pour laisser un héritage.
Oui, ça, tu pourrais dire ça, oui, sans aucun doute. Mais c'est pas mon premier livre, hein. J'en ai eu un autre avant.
Le premier vivre. Hein?
Le premier vivre touchait plus l'événement, les endroits, les acteurs qui avaient autour de l'événement.
OK.
Ça avait été écrit par le journaliste Harold Gagné à l'époque. Le deuxième, c'est pas la même chose. Parce que moi, pendant ces années-là, j'ai fait encore un travail pour être capable de comprendre les émotions. Parce que ce que j'ai noté chez mes enfants, je me suis regardée aussi pour m'apercevoir que moi aussi, j'avais des failles dans mes émotions et que moi aussi, j'avais des blessures au niveau émotionnel. Et pour être capable de parler de ta guérison, il faut que tu fasses un travail de guérison. Et c'est un cheminement, c'est un processus qui est long, hein? Tu vois, ça, c'est une chose que j'ai comprise avec un travailleur social à un moment donné. Les questions pourquoi? On se pose cette question-là, mais elle donne rien. À un moment donné, quand j'avais vu un travailleur social, parce que ça, c'est après la mort de ma fille.
Oui, c'est ça que
parce que ma fille est morte 7 ans après d'une overdose de cocaïne.
Okay.
Ma fille, comme elle apportait pas le même nom que son frère, elle allait au cégep. Au cégep, on ne parlait que de cet événement-là. Mm. Elle vivait toutes les mêmes émotions, probablement, que moi, je vivais. Elle savait qu'elle n'avait pas toujours été gentille avec son frère. Parce que des fois, tu dis des paroles qui dépassent ta pensée.
Donc,
mais si tu n'as pas réglé ça avant la mort de l'autre, ça te reste. Puis tu développes la culpabilité.
Oui.
Hein? Alors, ma fille, elle avait certainement beaucoup de culpabilité. Mais elle, elle n'avait pas la relation que j'avais avec le Seigneur. Mmh. Et puis, quand t'as pas ça, tu peux vivre quand même, mais souvent, tu vas aller prendre des dépendances. Ça peut être des médicaments, tu veux geler ta peine,
ouais.
La paralysie, tu veux pas l'avoir en face. Alors, les
remplir
médicaments, la drogue aujourd'hui,
là,
c'est effrayant ça, là. L'alcool, des fois, c'est des relations toxiques, mm-hmm. Des relations sexuelles, ouais. Qui sont vraiment débridées. Même le travail. Un travail où tu es workaholic, qui appelle, là. Ça
oui,
aussi, c'est dommageable. Alors,
oui.
Tout ça, là, ça t'amène du stress. Puis le stress, veut pas, va agir sur tes blessures à l'intérieur de toi.
Donc, au lieu de se gaver par-dessus, ouais. Essayer de les regarder.
Ben, c'est qu'à un moment donné, tu sais, tu t'as beau te geler, là, mais tu dégèles, hein.
Ouais.
Puis quand tu dégèles, ben tu veux te regeler,
oui.
Tu sais. Alors, ça, tu vas pas loin avec ça, non? Hein? Tu gèles, tu dégèles, tu sais. Tu gèles, tu dégèles. C'est comme la température, tu sais. Hein? Mais oui. Quand tu as des ressources à l'intérieur de toi, c'est une autre dimension.
Oui. Et c'est là que cet amour-là
moi,
en est une importante.
Moi, je dis que, oui, ça vient de l'intérieur.
Et c'est ce que vous partagez avec les autres.
C'est ce que j'aime partager, mais surtout le vivre.
Oui.
Le mettre
oui.
En pratique. Si on me demande de l'aide, je ne refuserai pas. Si on me demande d'écouter leur récit, je les écoute. Mais ça ne veut pas dire que je fais de la thérapie. Je ne suis pas une thérapeute. Je peux diriger cependant les gens vers les bonnes ressources.
Une oreille de l'amour.
Deux oreilles.
Deux oreilles.
On a une bouche et deux oreilles. Alors, on doit écouter deux fois plus que parler.
Effectivement, c'est excellent.
À un moment donné, quand j'ai vraiment décidé de vivre, ça c'est arrivé en l'an 2001, où à un moment donné, je me sentais mourir de chagrin. Et c'est à ce moment précis, ça c'est en septembre 2001, où j'ai décidé que je vivrais pour aider des personnes. Donc, je me suis mise un but dans la vie. Parce que si tu n'as pas de but, tu peux pas cheminer, hein. Et puis, c'est ce que le travailleur social m'a montré. Le travailleur social m'a vu dans une période où j'étais en dépression.
Mm-hmm.
Et le travailleur social m'a dit, voilà mon diagnostic. Puis, il m'a fait un petit acrostiche. Et puis, ça disait HALT. Et là, c'est tout des mots anglais parce que c'était comme ça. Mais il dit, le H, tu es « hungry ». Hungry parce qu'il voyait que j'avais une soif, une faim terrible de quelque chose de plus grand que ce que je vivais. Le A, c'était angry, donc la colère. Puis évidemment, j'en avais de la colère à ce moment-là. J'étais pas tellement heureuse que mes enfants, au moment où ils auraient dû commencer leur vie, qu'ils me laissent comme ça, là, et que les deux s'enlèvent la vie. Et puis surtout, entraîner 14 jeunes filles dans la mort, c'était terrible, ça. Et puis, j'étais en colère. Il dit, elle, c'est lonely. Donc, beaucoup de solitude. Puis, c'est vrai que je me disais, personne ne peut comprendre ce que je vis. Donc, c'est là où j'ai mis ma confiance en Dieu. Parce que j'ai dit, aucun être humain ne peut comprendre ce que je vis. Le t'es tired, fatigué, épuisé, plus de ressources. Et le e, c'était émotionnellement vidé, là, tu sais, vidé complètement émotionnellement. Et puis là, il m'a dit qui était Monique Lépine avant qu'elle se marie, avant qu'elle ait des enfants. Donc, il m'a ramené, lui, à qui j'étais auparavant. Qu'est-ce que j'aimais faire avec mes enfants? Il est allé jusque-là. Et c'est là où j'ai dit, ben moi, j'aimais les recevoir à manger le samedi soir. Et puis là, on faisait des jeux de mots. On aimait beaucoup les jeux de mots. Et puis, c'était agréable. Puis, il dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça maintenant? Alors, c'est là où j'étais... Il m'a mis au défi, hein. Et puis, j'ai décidé d'aller m'inscrire dans un club de Scrabble duplicate, là, qu'il appelle, là. Et puis là, ma chère enfant, je ne pensais plus à mes problèmes. Je cherchais des gros mots payants, là, tu sais. Alors, ça m'a enlevé de moi-même. Et là, il dit, change ta question. Ne demande pas pourquoi. Mais qu'est-ce que tu peux faire et comment tu vas le faire maintenant? Puis là, j'ai réalisé, mes enfants sont morts, mais moi, je suis encore là. J'ai encore des ressources. je peux encore faire profiter quelqu'un de ce que je suis, de qui je suis et de mes connaissances. Et c'est là où j'ai pris cette autre direction. Mmh. Alors, quand tu victimises, c'est que tu regardes ta blessure. Ouais. Tu peux rien voir d'autre que ta blessure. Voilà le pourquoi.
Ça joue constamment dans
ta
blessure.
Ça joue constamment, puis t'as pas de réponse. Au moment où il m'a remis à mes rêves de jeune fille, là, il me projetait vers l'extérieur de moi-même. Donc, je regardais autour de moi et j'ai vu des besoins.
Oui.
Et j'ai vu des choses que je pouvais faire pour aider certaines personnes.
Oui.
Alors ça, c'est une façon de surmonter ta blessure. Arrête de te regarder le nombril et regarde aux autres qui sont peut-être dans une situation encore pire que la tienne. Vois-tu?
Oui. Vous avez donc regardé vers les autres.
Oui.
Et vous me parliez tout à l'heure du constat, entre autres, de la stigmatisation.
Oui, la stigmatisation sociale. Ça, c'est parce que Polytechnique, comme n'importe quel autre drame qui arrive, il y a des drames comme ça qui surviennent en société, puis on focus là-dessus, et puis on veut garder le souvenir. Je vous dis pas que c'est pas bien de pas garder le souvenir, mais on ne met que l'accent que là-dessus. Tu vois, chaque année, moi, je dois revivre les mêmes affaires. Pourquoi? Parce que le Canada en a fait la journée de commémoration pour la violence faite aux femmes. Alors, forcément, ils pensaient pas à moi quand ils ont fait ça. Hein? Alors, ils ont fait ça, et puis ils veulent garder le souvenir. Mais il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait faire aussi pour aider les gens. Alors, moi, quand j'ai vu la stigmatisation sociale, je me suis dit, quand tu es en deuil, tu peux avoir un deuil privé, un deuil personnel, mais il y a un deuil collectif aussi. Parce que la société québécoise devrait en arriver à pas juste rester dans le déni ou dans la date de cet événement-là. Ils devraient ensemble trouver des moyens pour essayer de changer la situation des jeunes, la situation de ceux qui sont désespérés, des hommes qui ont de la colère, et ainsi de suite. Alors ça, je vois quelques actions, mais j'en vois pas beaucoup. Alors, je me dis, il y a de l'éducation à faire. Et puis, on la fait pas nécessairement. Mon livre, moi, j'ai pris ce livre-là, que j'appelle Renaître. C'est mon cheminement de guérison. Mais évidemment, il était caractère spirituel. Mais c'est quand même mon cheminement de guérison. Et je voudrais le laisser en héritage à la société québécoise pour que les gens qui souffrent puissent aller puiser, parce que j'explique très bien toutes ces émotions-là qu'on vit, là, de culpabilité, de honte, de colère, de peur. Je les explique comment moi je les ai apprises et comment j'ai cherché d'où venait la provenance dans ma personne de ces émotions-là pour être capable après de changer et de les vivre ou de les vaincre. Et puis c'est un peu l'héritage que je voulais laisser, parce qu'on peut transcender nos émotions, on peut les regarder en face et choisir, parce qu'il y a un choix à faire, de pas rester dans la douleur, de pas rester dans la souffrance, mais de prendre cette souffrance-là pour faire quelque chose de bien avec, pour pas que les choses se répètent.
Merci à notre invitée, Monique Lépine. Son livre « Renaître » aux éditions Saphir est disponible en librairie. Comment on en parle est un podcast réalisé par Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À l'animation et à la réalisation, Joliane Bourget-Carreau. À la coordination, Émilie Gagné. Pour plus d'épisodes de Comment on en parle, visitez le radiogaspésie.ca dans la section Podcasts.